The Magician qui est mon invité ce soir sur FG, on lui doit un remix immortel, celui-ci. Autre pépite qu'on avait découvert d'ailleurs dans le starter FG d'Hakim il y a de nombreuses années, je crois que ça ne nous rajeunit pas, je viens de me prendre une baffe, je crois que ça fait près de 10 ans déjà ce remix. C'est juste incroyable, on dit parfois l'important dans le métier c'est de durer et notre ami bruxellois The Magician, ça fait plus de 10 ans qu'il est à sa place de vigie de la house music, proposant sa propre vision dans ses productions et aussi celle des autres dans son mix mensuel Magic Tape qui fête sa 100e et sur FG, The Magician c'est évidemment aussi l'homme de ce remix, Licky Lee, qu'on vous faisait écouter tout à l'heure. Il est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va
très
bien.
En tous les cas, Stéphane, bienvenue à toi sur FG.
Merci.
Bonne année, on a encore le droit de se le dire pour quelques jours. Ce remix de Licky Lee qu'on s'écoutait, c'est évidemment celui qui t'a révélé. Et depuis, tu n'as cessé de produire, de fouiller dans les bacs à disques du monde entier pour en extraire le meilleur avec tes Magic Tapes, dont tu fais aujourd'hui la 100e édition. Est-ce que dès le début, c'est-à-dire il y a 10 ans, tu voulais faire de ce mix mensuel une vitrine de la house music mondiale ?
Une vitrine de la house music mondiale, peut-être pas, mais en tout cas, je voulais vraiment partager ce que moi j'avais en tête, comment je l'imaginais. Donc, j'ai pas la prétention de dire que.
Voilà, mais c'est une belle vitrine, en tous les cas, c'est vrai qu'elle est référente, cette émission. Alors, il faut préciser que ta 100e Magic Tape, elle sort en édition spéciale, donc 3 heures de sélection house avec des sons des artistes qui viennent du monde entier. Il y a une dimension quand même très généreuse dans ton émission, très ouverte, qui est marquante chez toi. On la voit pas chez tous les artistes. Et c'est essentiel aussi pour ton travail créatif de te nourrir comme ça des autres, de leurs inspirations.
Absolument. J'ai toujours fait ça, me nourrir et puis transformer et puis repartager pour recevoir et transmettre
aussi.
Et transmettre aux plus jeunes, parce que bon, je me retrouve souvent en studio avec des plus jeunes et je transmets ce que je sais.
Et on a beaucoup de chance dans l'électro, c'est que la jeune génération est très avide justement de
c'est
transmission,
vrai.
Ce qui n'est pas le cas de tous les genres musicaux. Alors, en plus de cette 100e, il y a un nouveau single, il s'appelle One Vibration. Alors, ce titre, c'est un hommage à la fête, à la danse. Le clip, c'est d'ailleurs un plan séquence autour d'une danseuse de l'Opéra de Paris. Il suinte le dance floor, il transpire la club culture. Alors, dans cette période complètement tourmentée, incroyable, est-ce que toi, tu te sens plutôt désarmé, orphelin de quelque chose ? Il est né de ça, ce morceau ?
Oui, il est important, mais quand je l'ai fait, j'imaginais avoir un public, en fait, simplement. Je l'ai fait dans un vol Francfort-Mexico.
T'as fermé les yeux et tu t'imaginais que j'avais ton public en face de toi.
Oui, c'est ça, mais je fais souvent ça en fait, pour le moment. Je fais de la musique dans le studio, j'imagine qu'il y a 1000 personnes devant moi. Et donc, je suis content.
Et tu les imagines, tu sais que c'est une très bonne thérapie parce que tous les DJ que j'interviewe en ce moment me disent tous, c'est déroutant parce que je teste d'habitude tous mes morceaux devant mon public et là je ne sais plus comment faire pour justement les tester. Alors voilà, vous faites comme The Magician, les amis DJ qui nous écoutent, vous fermez les yeux et vous imaginez que le public est encore là. En attendant, on se retrouve avec The Magician ce soir qui fête en tous les cas le 100e volet de ses Magic Tapes. Et puis on va s'écouter tout de suite, et bien Joël Corry sur FG avec Eden Hart, et moi je te souhaite un très joyeux anniversaire pour cette tape.
Merci
beaucoup. En tous les cas, Stéphane,
à bientôt.
Mars 2022, Antoine Baduel reçoit Kungs.
Ah, c'est efficace. Petit medley spécial Kungs, mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Valentin, comment tu vas ?
Ça va très bien, merci.
Alors, cet album, ce Club Azur, il est né pendant le premier confinement, pendant la crise sanitaire. Alors, au-delà du nom, quelle était l'idée principale pour toi de produire une musique de club ou justement de son qui te permettait de sortir des clubs ?
C'est un peu, alors tout ça est né d'une frustration de pas pouvoir sortir et se rassembler. Donc j'ai voulu faire de la musique positive et fédératrice pour le moment où les clubs et les festivals réouvriraient. C'est pour ça que je me suis lancé dans un album de danse avant tout et que j'ai puisé beaucoup dans les années 80, ce genre de vibe.
Est-ce que cet album aurait pu aussi être conçu avec une approche peut-être un petit peu plus deep ou un peu plus mélodique, je veux dire, parce que ok, c'est dansant, mais il y a quand même toujours cette petite touche un peu un peu deepisante.
Oui, il y a toujours un peu mon petit côté romantique qui ressort dans ma musique. C'est pour ça que je voulais pas le mettre de côté pour l'album, je voulais que ce soit un mélange. Et en fait, cet album, c'est un peu comme un voyage dans un club. On commence hyper fort avec Fashion, avec Boys Noise, puis ensuite il y a Lipstick, Never Going Home, où c'est vraiment la fiesta. Puis ensuite, il y a ce moment où tu sors du club accompagné ou pas, mais en tout cas, ce petit moment de mélancolie à la fin pour rentrer.
Comment on produit un album pendant le confinement ? Parce que ça exclut, j'imagine, le studio, les musiciens, le fait de se retrouver entre artistes ou entre potes. Tu l'as créé vraiment en solitaire ? Comment t'as bossé ? Parce que forcément, les manières de bosser doivent être très, très différentes.
Ouais, évidemment, j'ai dû beaucoup le bosser en solitaire parce que je pouvais plus... moi, j'aime bien aller à Los Angeles ou à Londres pour travailler avec des artistes anglais. Là, pour le coup, c'était en Zoom ou sur FaceTime, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait appel à des potes, à Martin Solveig que j'ai pu voir en vrai. Et sinon, c'était en solitaire, à Victor Flash aussi, avec qui j'ai fait Quanto Tempo. Voilà, j'ai fait ça avec des potes.
Alors, on parlait de cet album, tu le disais toi-même, pas mal d'influences des années 80-90, appuyées notamment dans la disco, la culture pop. Ça ressemble aussi à ce courant qu'on a appelé la High Energy, symbolisé par d'ailleurs le titre éponyme d'Evelyn Thomas, le fameux High Energy. Évidemment, trop jeune, beaucoup trop jeune pour avoir pulvérisé les dance floors de l'époque et avoir connu ça. Est-ce que ça te parle aujourd'hui? Est-ce que cette époque complètement bouillonnante, elle te séduit?
Moi, j'adore cette époque. J'ai regardé des tonnes de documentaires. J'ai écouté des milliers de morceaux de cette époque parce que je trouve ça hyper inspirant, hyper positif. Les clips étaient hyper colorés. Les gens dansaient, s'éclataient. Les morceaux duraient 7-8 minutes. Et justement, il y a l'intro de l'album s'appelle Zébulon en hommage au club où j'allais tout le temps quand j'habitais à Los Angeles. Et c'était que ce genre de musique qu'on jouait là-bas. Les gens étaient habillés un peu comme dans les années 80. Ils étaient là pour danser. Il y a un énorme dance floor. On se croirait dans un film. Ça m'inspire énormément. Et moi, j'aurais beaucoup aimé vivre cette époque.
Kungs qui vient nous présenter son tout nouvel album Club Azur, de la house, de la pop, de la disco, à l'image de ses derniers hits. Alors Valentin, tu le sais comme moi, la scène club, puisque on parlait justement de la scène club, elle est quand même extrêmement éclectique. Il y a des variants, c'est le moins qu'on puisse dire, dansant et souriant, plus queer et libérateur, plus sombre et alternatif. Alors quel clubber es-tu?
Moi, je suis un clubbeur curieux. J'aime bien découvrir des choses. J'aime voir des gens originaux. J'aime danser sur de la musique que j'ai jamais entendue. Il y avait un club à Paris qui était vraiment le club où je sortais tout le temps. C'est le Petit Palace qui malheureusement est en train de fermer ses portes. Mais c'est ce genre d'ambiance que j'aime bien. Un dance floor, pas de club bouteille où il faut commander à tout prix. Non, on est là pour danser.
Et pour aimer la musique surtout. Ton précédent album, Layers, sortait en 2016. C'est-à-dire il y a déjà 6 ans, emmené notamment par des tubes comme This Girl. Qu'est-ce qui a changé entre le Kungs de l'époque et le Kungs d'aujourd'hui?
Pas grand chose, honnêtement. Je suis toujours la même personne. J'ai toujours le même message. Les gens m'ont connu avec un morceau hyper positif et hyper festif. Et aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire.
Et artistiquement, t'as évolué dans quelle direction?
Artistiquement, j'ai plus d'expérience. J'ai découvert plus de musique. J'ai découvert plus de culture. Ça m'aide à produire ma musique et à explorer aussi un peu plus de genres. Mais artistiquement, voilà, aujourd'hui, il y a plus d'influence italo-disco. Je m'inspire beaucoup d'artistes comme Todd Terj ou Crystal Clear, qui sont des artistes très alternatifs. Voilà, en ce moment, je suis un peu là-dedans, mais j'évolue beaucoup, donc on verra dans le futur.
Alors, quels sont tes prochains objectifs là? Est-ce que ça va passer par le fait d'avoir maintenant, bon, il y a l'été qui arrive, forcément, qui dit l'été dit des dates, des clubs clés, ou des festivals, bien sûr. Où est-ce que tu voudrais justement te produire pour parfaire finalement puis promouvoir cet album?
Bah écoute, déjà j'ai une cinquantaine de dates là cet été, donc c'est vachement cool. Je fais Tomorrowland Winter, Tomorrowland, je fais une quinzaine de festivals en France aussi où j'arrive avec ma scène à moi et où je fais un show 100% Kungs, donc je suis en train de récupérer tous les tracks de mon album et d'en faire des remixes moi-même. Donc où est-ce que j'aimerais me produire? Partout, honnêtement, ça m'a tellement manqué que partout.
Au niveau de l'Europe, maintenant, ouais, c'est vrai qu'on le voit, il y a de plus en plus d'artistes maintenant qui commencent à avoir des carrières européennes. Ça, c'est un peu nouveau aussi, tu vois, qu'il s'agisse des Offenbach, qu'il s'agisse aussi des Allemands comme Topic, Robin Schulz, maintenant qui commencent vraiment à avoir un rayonnement sur tout le marché européen. Mm-hmm. On en parlait tout à l'heure en antenne. Toi, c'est le marché italien où tu rencontres un succès vraiment rapide et phénoménal.
Ouais, c'est incroyable. Sur mes 3 dernières sorties, j'ai fait numéro 1 à chaque fois. Je suis tout le temps numéro 1 d'Airplay en Italie. Je pense que c'est ce côté italo-disco, funk qui leur plaît beaucoup. Donc cet été, je vais aller voir aussi nos amis italiens. Ça va être sympa.
Bon, en tous les cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Un petit mot aussi sur le mix que tu vas nous faire dans un petit instant. Un condensé de l'album, ou alors est-ce que tu nous as apporté quelques petites releases, quelques petites exclus, voire des remixes?
Alors il y a un peu de tout ça justement. Il y a des morceaux de mon album que j'ai remixé moi-même, qui seront les remixes pour mon set de cet été. Il y a un remix de Shouse aussi, Won't Forget You, le dernier que j'ai fait pour eux. Voilà, vous allez voir, il y a plein de petites surprises.
Et alors au niveau de l'album, est-ce que tu nous parlais tout à l'heure des collaborations? Effectivement, Martin Solveig, on peut aussi citer Boys Noize avec lequel tu as travaillé très étroitement. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à des remixes, des belles surprises comme là par exemple Robin Schulz sur le Clap Your Hands? Est-ce que tu vas aussi avoir une politique de remix et de remixeurs qui vont à la fois te permettre de faire des collabs avec d'autres artistes et puis voir aussi t'ouvrir à d'autres publics?
Alors pour l'instant, les remixes sur cet album, je ne suis pas sûr qu'il y en aura plus. Par contre, je suis déjà en train de travailler sur le prochain album et j'aimerais avoir un album de featuring, avoir plein de feats, plein de collaborations, justement maintenant qu'on peut revoyager et qu'on peut ressortir.
C'est-à-dire que là, tu as, évidemment, parce que comme l'album t'attendait à la réouverture des clubs pour le sortir, il a déjà pratiquement, bon, on va dire, ça fait un an déjà qu'il est en gestation.
Ouais.
Donc t'es déjà en train de mettre le troisième au charbon.
Je suis déjà en train
charbon, de
préparer le troisième, ouais.
Et j'ai
déjà quelques featuring sympas déjà dessus. Je peux pas le dire, mais en tout cas, ça s'annonce
excitant. Tu peux me le dire, écoute, on est vraiment entre nous. Tu peux pas. Bon, ce sera en tous les cas le plaisir de t'accueillir bientôt. Never Going Home, Lipstick et beaucoup d'autres sons frais et 80s à retrouver dans le nouvel album de Kungs qui vient de sortir. Son nom, c'est Club Azur, et une release party qui aura lieu le 1er avril prochain au Tunnel of Love à Paris. Kungs, qu'on retrouve dans un petit instant en DJ set dans les studios d'FG. Un artiste, on en est très fier, hein, qui a été révélé dès le départ dans le Starter FG d'Aki Makli. Et en tous les cas, rien que pour ça, on en est très fier.
Décembre 2018, Antoine Baduel reçoit Môme.
Et c'est mon invité ce soir sur FG. Salut Jérémy, comment vas-tu?
Salut Antoine, très bien.
C'est toujours un plaisir de t'accueillir. À chaque fois, tu nous envoies une carte postale musicale. Donc te voilà avec ce nouveau single. Je devrais dire cette carte postale même, puisque tu ramènes à chaque fois de tes voyages une espèce comme ça d'immortalisation, j'allais dire, de ton périple. Toujours sous le soleil. Finalement, c'est un peu ça l'image que tu as. Alors, toi qui es de retour en France, est-ce que c'est pas trop douloureux pour toi ce retour-là?
En fait pas vraiment, parce que c'est plutôt cool au final d'avoir autant voyagé, d'avoir pris autant d'inspiration de partout et de revenir en studio pour finaliser tous les titres.
Et c'est ça, c'est-à-dire que tu fonctionnes toujours de cette manière, c'est un périple comme ça, des esquisses musicales que tu vas créer au fil de tes voyages, et quand tu reviens là tu t'enfermes, tu t'immerges en studio pour tout finaliser.
C'est ça, et c'est aussi le moment le plus dur.
Alors ce Sail Away, c'est assez étonnant parce que à contrario de morceaux comme Hold On ou Aloha qui étaient quand même très poppy, très solaire, là tu signes un titre d'abord qui est un peu plus rétro, c'est quand même c'est différent, et je trouve qu'il envoie d'autres formes d'émotions, presque plus, je dirais pas mitigées, mais je dirais peut-être un peu plus nostalgiques. Est-ce que tu l'as conçu justement en fin de voyage? Il y a une différence par rapport au précédent single?
Alors ouais, c'est clairement ça, il y a vraiment, comme tu as dit, nostalgie, tout ça, c'est dans le son aussi, j'ai cherché à,
c'est clair, hein.
à retrouver un petit peu les années 90, les débuts de l'électro, tout ce qui est Daft Punk, tout ça, la French Touch, et en essayant en fait d'avoir un son actuel, donc plus HD, plus ouvert, et du coup ouais, ça a été j'ai composé cette musique avec Ricky Ducati, donc le chanteur avec qui on a eu un coup de cœur musical en fait, et aussi amical, donc on a fait ce titre vraiment parce que lui aussi était dans une période un peu nostalgique et avait envie de faire une musique qui comptait pour lui.
Et c'est avec lui que t'es parti à Los Angeles?
Non, je l'ai vu là-bas.
D'accord.
Je l'ai bien vu là-bas parce que je le connaissais déjà d'avant en fait, j'avais fait la musique Alive de mon album Panorama avec lui. Et ça a été un petit peu la suite un petit peu de cette expérience musicale.
Et c'est lui qui a déterminé le choix de Los Angeles, parce qu'il y a quand même à chaque fois une destination, hein. C'est vraiment important, la ville crée vraiment une notion dans ton travail artistique. Et c'est lui qui a déterminé le fait d'aller à LA, c'est ça?
Il est de Los Angeles. Donc il habite là-bas. Et pour moi c'était une partie de mon road trip. Et au moment où en fait on s'est retrouvé là-bas, ça a permis en fait de mettre une destination aussi à ce titre. Et mais bon, après on aurait pu faire ailleurs, mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais dans une période où très intense aussi de voyage, quoi. Et lui aussi, donc ça a fait un bon mix au final.
Bon, mon invité ce soir qui vient nous présenter son nouveau single Sail Away, extrait de l'EP Moments 2, la suite. Un EP toujours inspiré de son carnet de voyage. Alors comment ça se passe, Môme, quand tu voyages? Parce que finalement chaque morceau est immortalisé, ou plutôt chaque ville est immortalisée par un morceau. Mais comment tu fonctionnes? C'est quoi? C'est la beauté d'un panorama? C'est des rencontres qui font jaillir l'idée d'une mélodie, le début d'un titre? Ça se passe comment?
C'est un peu, t'as tout dit en fait. Ouais. Après, c'est pas aussi rationnel au moment de la création du titre. Au final, c'est quelque chose que je vais ressentir sur le moment. Ça peut venir de beaucoup de choses, mais généralement, ouais, ça peut être les paysages. Enfin, maintenant, c'est quand même plus les rencontres au final, parce que maintenant, ça fait deux ans que j'ai l'habitude de voyager, et en fait, ce qui est vraiment important, c'est les rencontres qu'on y fait et les souvenirs qu'on en garde. En tout cas, pour moi, c'est ça qui me marque le plus aujourd'hui.
Quelle est la destination qui t'a le plus marqué justement sur ce moment numéro 2?
Je sais pas, c'est trop dur parce que Los Angeles, c'est la ville où j'y vais vraiment le plus souvent. Après, San Francisco, San Diego. Moment 2 a vraiment été issu de là-bas. On va dire que c'est LA, ouais, je pense, parce que.
Parce que c'est la ville qui t'inspire le plus en tous les cas.
Ouais, c'est clair.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve à la fois des morceaux chantés, plutôt pop, d'autres plus instrumentaux qui font comme des bandes originales de films. Je pense par exemple à Kangoo.
Ouais. Alors, en fait, je suis.
C'est ça la balance entre les deux.
C'est ça. Je suis vraiment. Je suis un peu partagé dans ma tête entre faire de la musique express, vraiment qui se reconnaît expressive avec des structures et aussi une musique qui permet aux personnes de s'évader sans contrôle en fait.
Alors il y a un truc qui est très drôle, c'est que t'es pas le seul français à immortaliser ses voyages et ses périples et surtout à en faire des sources d'inspiration pour ses productions musicales. Et sur ton genre, t'es le seul, mais sur un genre électro très différent, je pense à Tilacine, je pense à Molécule. On a des artistes comme ça qui Tilacine qui vient de faire un clip en Argentine, Molécule qui lui choisit des destinations totalement extrêmes comme l'Orient Express ou alors un cargo perdu dans l'océan Arctique. Est-ce que ce sont des artistes que tu suis, que tu aimes?
Carrément. Enfin, en fait, c'est peut-être plus Tilacine. Molécule, c'est techno, mais j'écoute pas trop techno. Mais oui, en fait, moi, je les admire vraiment parce que c'est dans des conditions bien plus dures que celles que j'ai connues. Et déjà que pour moi, ça me paraissait déjà insurmontable composer vraiment de manière itinérante, c'est pas quelque chose de facile. T'es hors confort, tout ça. Et ben, eux, ils ont vraiment accompli des belles choses et je respecte vraiment.
Là tout de suite on va te retrouver pour un set totalement exclusif parce que tu nous réserves justement quelques pépites que tu n'as jamais présentées à ce jour, nulle part ailleurs finalement, et même pas et surtout pas en radio et sur aucune autre plateforme.
C'est ça, ouais, ce soir il y aura des musiques que j'ai jamais sorties qui apparaîtront sur mon prochain album, et il y a même des remixes que j'ai fait par plaisir qui seront peut-être officiels ou pas, en fait j'en sais rien. En fait je suis beaucoup revenu avec ce deuxième album sur le plaisir de faire de la musique au-delà de tout le business qu'il y a autour, et là ce soir je me suis dit pourquoi pas jouer ces morceaux et voir un petit peu ce que ça donne quoi.
Novembre 2020, Antoine Baduel reçoit Médusa.
Il y a quelques jours sortait le nouveau single de Médusa, il s'appelle Paradise. Aux commandes Médusa, c'est un trio italien, l'esthétique toujours superbement travaillée, mais aussi Dermot Kennedy, un Irlandais qui avait rencontré le succès avec son titre Power of Me, un titre d'ailleurs brillamment remixé par Médusa. Une fois encore, Médusa nous livre une parfaite vision de la house music et même de la tech house. Matt de Médusa est mon invité ce soir. Matt, bonsoir my friend, how you doing?
Bonsoir, how are you?
I'm very good, Matt, thank you. How are you doing?
I'm good. I'm working right now in the studio on new music, so I'm having fun with the guys here.
Alors, je sais que votre trio Médusa aime la house music sous toutes ses esthétiques, hein, underground, mais aussi vous faites toujours en sorte de vous ouvrir pour que le grand public puisse savourer votre musique. Est-ce que Paradise, cette histoire d'amour, est faite pour ça justement, pour toucher à la fois les initiés, mais aussi le plus grand nombre et le plus de monde possible? I know you like your house music, let's say underground, but you always manage to open it up to a wider audience. With Is Paradise, this love story, made for this to reach more people?
Yeah, as you said, we like to bring underground to the radio daytime and to the pop music that is not usual at the moment. Luckily, we have this opportunity. The love story on the lyrics is more about the situation we are living now in the world. So, you know, talking about the distance we have between you and something that you think is your personal paradise. I mean, it can be everything, like a person, girlfriend, boyfriend, an animal, or just a place that makes you feel special. So the meaning of the lyric is just, I know we are distant from each other, but just close your eyes and think about me or a place or something else that makes you feel special, and that will be there and I will be with you soon.
Alors les voix ont toujours beaucoup d'importance hein, dans vos titres. Elles donnent souvent une gravité, un côté envoûtant. Comment est-ce que vous bossez ça? Vous faites des castings de chanteurs, de chanteuses? Ou alors vous concevez vos titres en sachant déjà quel genre de voix ira dessus? Comment vous bossez? Vocals are always important in your tracks. I mean, they're determining the track. They often give a seriousness, a spellbinding dimension, I would say. How do you work on this? Do you cast singers? Do you conceive your tracks knowing which kind of voice will go with them?
Crucial thing for us vocally in every track we work. We usually when we're in the studio work on all the stuff around the track. I mean, like backing track, we write the lyrics, we write the melody for the vocal top line. So we close the entire project, and then we search for we look for a feature, and we discuss with management or label. And in this case, we found Dermot because we remixed him last year with Power Over Me, and we noticed that his voice was fitting perfect on our track. So we decided, and luckily we are under the same label in the UK, so was not too hard, so hard to get him on the track. And he loved immediately the idea of the track and wanted to fix some stuff in the verse. But everything was already complete and he just needed to sing.
Alors musicalement du coup, parce que votre musique est idéale pour les clubs, est-ce que vous trouvez toujours l'inspiration dans la période actuelle? Je veux dire, est-ce que ça vous donne envie d'aller vers d'autres sonorités par exemple? And musically, because your music is great for clubs and I would say dedicated to clubs, do you still find inspiration lately, or have these times made you go towards other sounds, other aesthetics, other genres?
You know, it's a little bit weird this time. Probably the meaning of paradise, that the top line is a little bit more pop, is an example, a right example of the time. But we usually, when we work on underground or club or radio stuff, the first thing we do is to test it out live on the club, on festivals, and see the people reaction. So we can notice if maybe the track is wrong for our music, the track is right, some sounds are right, wrong. This time is difficult for us because we don't have the reaction from the people. Probably this is one of the reasons why we are not releasing any club stuff at the moment. But yeah, I mean, I think with Paradise we did a good thing. Probably the thing that is a little bit pop on the top line and helped us a lot to know that this track was right for the project.
Alors, vous voilà donc à parler du paradis avec ce single Paradise. On va rentrer donc dans une interview personnelle, spéciale, Paradise. So Matt, as usual, you were talking, sorry, about Paradise in your track. So, we'll do the personal interview with a special Paradise interview. So, alors, imaginons, te voilà au paradis. À quoi ressemblerait ta soirée idéale là-haut? À un club enfin ouvert? Let's imagine, you're in heaven, in paradise. What would the ideal party look like up there? A club that's finally open?
Yeah, that would be a dream. That would be a real dream. I hope that club and festival can open as soon as possible so we can all party together.
Alors, imaginons, tu es au paradis, quel public tu aimerais retrouver? Celui d'un petit club underground ou celui d'un énorme festival du type Tomorrowland? Which, you're in paradise, in heaven. So, which audience would you like to find there? The one from a little underground club or a huge festival like Tomorrowland, for instance?
I prefer playing in underground clubs, so you have more the contact with the people and you can feel better the attitude. I mean, like feeling what the crowd feel with your music and enjoying it with them the night.
Au paradis, avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Quel artiste, vivant ou mort du coup? In paradise, with whom would you like to make a collab? I mean, which artist, dead or alive?
I mean, for pop music, The Weeknd is the one.
Okay. Et quel morceau?
For underground, Eric Preet.
Ah, of course. But they're both living, still.
that's a good sign.
Alors, quel morceau ou quel artiste t'écouterais pour l'éternité au paradis? And which track or artist would you listen to forever in paradise?
Michael Jackson.
And my last question, Matt. Quel est le plat, l'aliment que tu aimerais manger pour l'éternité au paradis? Which is the dish, the food you'd like to eat forever in paradise?
Pizza.
Because you're Italian.
Of course, yeah.
Merci beaucoup, grazie mille. Merci beaucoup, c'était Matt de Medusa. Merci en tous les cas, Matt. Thank you so much, my friend. Always a pleasure talking to you.
Merci, thank you for your time and your support.
Novembre 2016. Antoine Baduel reçoit Cérone.
Et oui, émission spéciale ce soir, ambiance disco-funk dans les studios de Radio FG. Les corps vont remuer, suer, car c'est un nouvel album que nous livre mon ami Marc Cérone ce soir. Il s'appelle Red Lips. Cérone, une carrière, une vie consacrée à la disco, à des albums mythiques comme Love in C Minor ou encore Supernature, des tubes, des hymnes, je devrais dire, comme Give Me Love, Je Suis Music. Recevoir Marc Cérone, c'est pas de la promo, c'est inviter un ami, mais également un morceau d'histoire de la musique. Et ce soir, il est avec nous en direct dans les studios de Radio FG. Bonsoir Marc.
Bonsoir. J'aime bien quand tu dis faire pour moi aussi, faire FG. C'est pas faire une radio, c'est d'aller voir un pote.
Ah ouais, exactement. Et en plus, et c'est un plaisir qui est partagé parce qu'à chaque fois, tu nous racontes comme ça, tu nous fais revivre des grands moments, des grands moments de cette musique, en découvrant évidemment les coulisses. Et c'est ça qu'on adore. T'es de retour en plus, Marc, avec cet album. Il s'appelle Red Lips. C'est toujours un événement en plus quand tu sors un album, un disque, parce que.
Il y a longtemps.
J'allais dire, tu portes avec toi, je disais non pas un son ou des morceaux, mais un morceau d'histoire. Alors qu'est-ce qui t'a justement donné envie de remettre le couvert?
J'espère. La couronne qu'on m'a mise sur la tête, ça, elle est un peu lourde. Par contre, d'avoir une couleur à moi et qui m'a fait tenir 40 ans, pourquoi on m'a samplé, pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de concerts à faire, ça me plaît d'avoir... Avoir une couleur, quoi, c'est mon son.
On va en parler tout à l'heure, justement, de ces sonorités, de ces collaborations. Mais globalement, Marc, quel disque tu voulais offrir à ton public? Parce que quand on l'écoute, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie continuité dans ta carrière. Mais comment tu le qualifierais? Est-ce que pour toi, c'est une pépite disco pour la nouvelle génération?
Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai jamais cru depuis le début. Et là, je pensais vraiment pas que j'allais refaire un album comme des tubes incroyables qui se sont faits sur tellement d'années, des décades de Supernature, parce que j'ai jamais été un artiste qui faisait un tube boum, tu sais, ouais. comme les grands smash qu'on appelle en 3 mois. Ça a toujours été longtemps, mais durant. Des fois, ça m'emmerdait d'avoir ce genre de réaction. Maintenant, j'en ai que de bénéfices. C'est pour ça que les générations après générations m'ont tenu, quoi.
Alors, une première question s'impose. Est-ce que tu t'es... Dans quel état d'esprit t'étais? Parce que moi, je tiens à dire une chose. Bon, c'est une appréciation un peu personnelle sur cet album. Mais je trouve qu'il est excellemment réussi, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne, Marc. C'est la parfaite balance, c'est le curseur placé au juste endroit entre à la fois des sonorités disco, funk, et en même temps des sonorités très modernes, très contemporaines. Et c'est pour ça qu'il est réussi, parce que c'est le curseur qui est vraiment placé au bon endroit. Qu'est-ce que tu en penses quand on dit ça?
C'est un bon compliment, c'est le compliment qu'on attend. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai mis 3 ans à faire cet album, parce que je voulais pas me presser. En plus, je tourne beaucoup, et les featuring que je voulais, où ils étaient pas libres ou autre. Et on a pris beaucoup de temps. Et en plus, je voulais vraiment l'enregistrer avec des vrais musiciens, en studio, comme à mes débuts, avec un guitare, une basse et un clavier, et moi la batterie. On a fait ça à Los Angeles, et puis j'ai fait beaucoup plus de titres qu'il y a sur l'album. On a pris du temps à choisir celui-là, après je partais 2 mois sur la route, et j'ai pas voulu avoir les tendances, malgré qu'on est obligatoirement influencé avec tout ce qui se passe.
Bah, c'est évident.
Il y a vachement de belles choses en plus aujourd'hui au niveau de la dance, même si on l'appelle électro ou quoi que ce soit. Écoute, en prenant du temps, en attendant rien.
Beaucoup de featuring. Rien,
c'est vraiment en faisant plaisir. Je crois que c'est entre Love in C Minor et Supernature et cet album-là, je crois que c'est vraiment les 3 albums où je me suis fait plaisir. Love in C Minor, c'était tellement. C'était tellement à côté de tout ce qui se faisait.
Ouais.
Supernature, il y avait Paradise au centre. Supernature avec les synthés, c'était tellement différent de Love in C Minor. Rien à foutre, je me suis fait plaisir. je pensais que ça allait pas durer, donc au moins je me faisais plaisir. Et là aujourd'hui, comme j'attends pas plus que cela de choses, tout va bien.
T'as été toi-même, quoi.
Ouais, voilà, sans concession.
Et alors, faut le préciser, des featuring quand même super intéressants parce qu'il y a Tony Allen.
Vachement supporté aussi.
Attends, Tony Allen, musicien hors pair. Je veux dire, est-ce que. Aloe Black également, des musiciens, des chanteurs. Est-ce que c'est des artistes
Brandon Lewis, qui est l'un des chanteurs de Disclosure, quand même, tu vois. Ouais, j'ai fait mon choix de plaisir.
Ouais. Vachement intéressant. En tous les cas, est-ce que c'est des artistes avec lesquels tu avais déjà travaillé par le passé?
Non.
Que des découvertes. En tous les cas, à l'écoute.
Si le guitariste qu'on connaît bien, Nile Rodgers, avec qui,
bien sûr,
depuis 40 ans, on est très amis. Ouais.
À l'écoute du premier single Move Me, on est rassuré parce que finalement, il est à la fois puissamment dansant. Et alors, une chose qui moi, m'a étonné, c'est que d'un côté, comme je te le disais, c'est très moderne. D'un autre côté, il y a une sonorité disco et elle semble avoir traversé les âges. Et quand je te disais ça tout à l'heure, ça avait l'air de t'étonner, Marc.
Bah, je suis toujours très. Non, pour un artiste, c'est un bon compliment. Hein. C'est comme quand dans la rue, on vient me faire une photo, c'est toujours des jeunes. Et souvent, ils ont des vues à côté qui les regardent et disent c'est qui. Et c'est la plus belle récompense qu'on peut te faire.
Marc, on en parlait de ces collaborations, de ces voix. Tu cherchais quoi exactement? Quel genre d'émotion tu voulais exprimer? Parce que des voix comme Aloe Black, elles sont super intéressantes.
Ouais, non, mais avant les voix au niveau de la musique, je voulais être un peu plus funk. Parce que j'adore d'une part la funk. J'ai fait quelques extraits dans mon répertoire, si on regarde depuis 40 ans. Mais je suis jamais allé à fond comme maintenant. Et j'ai trouvé un mec qui s'appelle Scalp, qui est un Français.
Ouais.
Avec qui
qui faisait le projet Core et Scalp.
Alors je sais pas, je crois qu'on m'a
avec
dit
on DJ a Core, ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
On a commencé à faire des maquettes. Tout le reste, je te dis, ça s'est enregistré à Los Angeles. Et le mec, il a une bonne vue, il a une bonne sensibilité. On a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble.
Ouais.
C'est pour ça que ce mélange, il est ce que tu disais tout à l'heure.
Alors aujourd'hui, en 40 ans, les choses ont énormément changé en matière d'instruments, en matière évidemment, il y a l'électronique qui est passée par là. Mais justement, c'est ce que je voulais savoir. Comment ça se passe en studio quand on retravaille ces sonorités funk? Est-ce qu'on revient sur les fondamentaux ou est-ce que tu as l'impression que ça va plus vite grâce aux ordinateurs? Ou est-ce que finalement on est resté sur un mode de fabrication finalement très proche de ce qui se faisait il y a 40 ans?
On est maintenant la culture de l'humain, et c'est mondial, même les pays retardés. On est tellement entre les iPhones, même une lettre que tu tapes sur ton ordinateur, elle te pousse à être parfait, ouais. Bien en place. La musique électro que beaucoup ont produit avec les computers, si tu veux, c'est tellement parfait.
C'est Photoshop.
Que ça devient froid. Ouais. Ça ne met pas en cause la production, les bonnes idées, la créativité, la composition, quoi que ce soit. Mais la manière de l'enregistrer et le fait de retourner là en studio avec des grandes consoles, SSL, tu sais, des grands studios, quoi. Évidemment, dans ma tête, je me suis dit, mais comment on fonctionne à la vitesse? On croit qu'on va vite avec un computer. C'est pas si vrai que ça. Mais on perd beaucoup. On perd de la. Oh, je vais être grossier, mais je suis sur FG. C'est comme une rencontre, comme une séduction. Allez, hop, on te rend compte, on baisse tout de suite.
Ouais, on
enlève la séduction.
Et alors, juste.
Le live, c'est la séduction, c'est le. C'est difficile à expliquer. Tu le ressens, tu le ressens pas.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant.
Je me suis permis de dire ça
qu'on dit les choses telles qu'on les pense. Mais alors, c'est vachement intéressant parce que quand tu parles justement de séduction, il y a un côté spontané. Ça s'est passé comment quand t'es arrivé en studio? T'avais des idées en tête? Parce que t'avais pas produit depuis plusieurs années? Ou alors t'es arrivé avec une copie blanche?
Je dirais pas que j'avais le track, mais j'avais l'émotion, comme à chaque fois que je suis passé en studio. Tu penses la veille au soir, t'es excité. Et puis il y avait des bons talents. Et puis le bassiste, c'est le bassiste de Beyoncé, je me souviens plus son nom, mais quand tu passes quelques jours en studio, que le mec, comment il joue, quoi. Ouais. Que ce soit les guitares, que ce soit clavier de Steve Wonder, que ce soit les cuivres. C'est des mecs de talent, que ce soit tous les featuring qui sont venus s'associer. T'as un peu le trac, quoi. Tu te dis, j'espère qu'ils vont t'inspirer parce que j'ai fait avant, quoi. Et en fin de compte, ça s'est super bien passé. Avec Aloe Black, on a passé deux nuits en studio, on n'avait rien, et puis on a pondu, comme à la grande époque. Ça, ce que j'appelle grande époque, comme à l'époque 70s, quoi, quand même.
Alors, cette époque 70s, Marc, qu'on sublime tous, qu'on a tous aimé, il y a eu deux époques qui ont été incroyables. Bon, l'époque 70s disco, l'époque 90s clubbing, premières années house techno.
il y avait aussi un côté provoque. Quand je regarde finalement quelque part, bon, on reste un peu dans la séduction, quelque part dans le charnel, dans le sensuel avec la pochette de Red Lips. À l'époque, tu sortais des pochettes de disques provocatrices, des filles dénudées. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, où on est un peu dans l'apologie du politiquement correct, on pourrait casser les codes et revenir là-dessus?
Alors, malgré Madonna qui avait lancé un mouvement montré vraiment de sexe au plus haut niveau, malgré encore des clips qui sont aujourd'hui assez provocateurs, je trouve qu'on est vachement aseptisé.
Ah bah totalement.
Comme, je te dirais presque, un mec comme Coluche aujourd'hui, il pourrait pas.
Ouais. Ou les nuls.
C'est pas qu'on est nuls, c'est aseptisé.
Ou les nuls.
Ou les nuls, bien sûr, ouais. Pardon. On est aseptisé, on peut plus. Il y a des censures partout, il y a des cadenas partout. On n'est pas pareil. On peut pas être provocateur aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Je trouve que les générations que j'ai eu la chance de passer. Je trouve que chaque génération est intéressante. La moins intéressante pour moi serait presque 85-92, dans cette période mid-80.
Ouais.
Mais sinon, aujourd'hui, on est dans une période. Mais attends, les mecs, vous rendez compte la période que l'on vit, révolutionnaire avec toute l'informatique. Combien de fois tu prends ton iPhone ou ton Samsung? Comment on vit? Comment on communique? Il va en sortir quelque chose, même s'il y a des excès ou quoi que ce soit. Mais c'est fabuleux. Enfin, moi, je suis ravi. Je trouve que j'étais ravi de vivre les 70s, mais je suis vraiment ravi de vivre encore cette période et de la vivre comme je la vis, quoi, d'être sur la route et avec un public chaque semaine devant. Tu vois, c'est top.
Émission spéciale ce soir en direct sur Radio FG. Il est 19h passé de 33 minutes. Une émission évidemment retransmise en direct sur toutes les fréquences du réseau FG, mais également sur le Facebook Live Radio FG. Une émission spéciale qui signe évidemment et qui est là pour marquer ce nouvel album Red Lips, signé notre ami Marc Cerron. Il a été question de disco, de femmes également. On va terminer avec la trace que Cerron laisse au-delà du disco sur l'ensemble de la scène française, parce que c'est un point, moi, sur lequel je voulais un petit peu insister, Marc. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des artistes qui, pour la première fois, rayonnaient à travers le monde, avec les Daft Punk, les Bob Sinclair, les David Guetta, mais de fait, le premier français à avoir été, à incarner cette French Touch, c'est toi. On le souligne peu, finalement.
À mon époque, on appelait ça le French Sound.
Le French Sound.
Ouais.
Alors, c'est vrai que tu es un self-made man français. On a l'impression qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir une star avec des carrières éphémères. Est-ce que les choses étaient pareilles à l'époque?
Non, puisque à l'époque, il fallait d'abord que tu aies une vérité de performance sur scène. C'est parce que ça marchait.
Ouais, ça venait du live, ok.
Parce que ça venait du live, que ce soit des chanteuses, des chanteurs ou autres. Parce que les lives, et tu te faisais remarquer par des impresarios, on avait ça à l'époque, qu'une maison de disques s'intéressait à toi. Aujourd'hui, non, on fabrique un tube, et si la nana chante bien, qu'elle présente bien, on y va.
On fabriquera un live, en fait.
Voilà, et on fabriquera un live, que ça dure un an ou deux ans, ça coûte moins cher aux maisons de disques, d'ailleurs, quand les artistes sont éphémères. Les artistes qui durent normalement sont plus chers.
Et
on est parti. Mais je trouve que ça va mieux quand même. Ça, ce qui m'a gonflé, c'est les années 2000. Il n'y avait que ça.
C'est vrai.
Je trouve que là, depuis 4, 5, 6 ans, il y a des groupes. Il y a des groupes absolument géniaux, les Maroon 5. Enfin, je peux en citer, la liste est très grande. En France aussi, les Christine and the Queen, par exemple. Il n'y avait pas ça dans les années 2000. Les artistes redeviennent aujourd'hui avec le vouloir d'éviter de ressembler aux autres. Alors, là, c'est ce qu'on avait, nous, dans la période 70s, que tu vois des goûts, des Gauthier, des Warhol,
des Grace Jones,
des Basquiat. On avait un leitmotiv, c'était d'éviter de ressembler aux autres. C'est pour ça que moi j'ai mis la batterie très en avant et j'ai fait Love in C Minor pour me détacher de tout ce qui se faisait. Nous considérait que c'était une chance.
Alors, ces millions d'albums vendus, c'est évidemment aussi des fêtes extravagantes. Hein. Rappelons que la fin des années 70, le début des années 80, c'était le clubbing, la libération des corps, des endroits comme le Studio 54 à New York, comme le Palace à Paris. Si un souvenir te revenait de cette période, ce serait lequel?
Le Studio 54, sans hésitation.
Ouais.
J'y ai vu ce qui n'est pas racontable, j'y ai vécu des trucs de ouf. C'était dans n'importe quoi, ça devenait quelque chose. Parce que les gens venaient faire la fête, on venait pas obligatoirement chercher, comme il y a beaucoup de clubs, les mecs ou les nanas, ils viennent chercher du cul, rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, ou se saouler la gueule pour oublier la semaine qu'on a passée. Non, les gens venaient faire la fête. Simplement la fête, si les gens savent ce que ça veut dire encore aujourd'hui, faire la fête, ça veut dire se lâcher.
Mmh.
Et puis en plus, on était moins sur le paraître, donc les gens jugeaient moins. Tu pouvais te balader, exagérer un petit peu, mais te balader avec des plumes dans les fesses, on n'allait pas te juger, on n'allait pas te regarder.
Non, au contraire, à l'époque, on disait Waouh, I love you, I love the way you look like.
Exactement.
Il y avait un côté
like
aussi. Il y avait cette expression. Alors, je sais, Marc, tu as toujours eu beaucoup d'affection pour les DJ français. Bob Sinclair, en l'occurrence, c'est un bon exemple. Ton fils est également DJ, Greg. Est-ce que tu comptes faire appel à ces talents, jeunes et moins jeunes, pour la tournée, pour le live, pour d'éventuels remixes?
Alors, que ce soit en DJ qui sont dans la même affiche que moi dans les lieux, ça je m'en occupe pas du tout. Mais aujourd'hui je suis sur de la nouveauté, je suis sur autre chose. Je ne suis jamais revenu en arrière. J'étais ravi d'avoir des collaborations avec je dirais 150 DJ qui m'ont samplé, qui m'ont permis d'ailleurs d'être associé à des gros succès et de passer les générations. De pas avoir un son qui vieillisse, donc des saluts, m'ont largement salué de leur côté, mais c'est derrière. C'est marrant, mais c'est derrière alors que maintenant je fais DJ, tu vas me dire.
Et oui, mais en même
c'est
temps.
C'est paradoxal.
Moi, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que tu es très fier de ces DJ, de cette French Touch. Tu as un côté. Tu l'as quand même.
Je les défends, évidemment. Ouais. C'est un peu. Je veux pas être prétentieux, mais je veux dire, j'ai un petit peu travaillé pour que les.
C'est moins qu'on puisse dire.
Quand les maisons de disques me disaient, mais comment tu peux avoir des titres de 16 minutes, ça passera jamais en radio, avec un pied si fort en devant, je dis, mais c'est pas pour les radios, c'est fait pour les clubs, pour que les gens dansent, je m'occupe pas des radios. Et on me disait, mais comment on vend? C'est pas mon problème, c'est à vous de le savoir. Les DJ ont fait autrement, et aujourd'hui, les DJ sont leaders incontestés dans le monde pour faire bouger les choses.
Merci en tous les cas, Marc Cerrone. Red Lips, retenez bien le nom de ce nouvel et dernier album de Marc Cerrone qui vient de sortir, emmené par le très bon single Move Me, que vous avez découvert sur Radio FG. Marc Cerrone, vous pourrez le voir sur scène demain soir au Yo-Yo à Paris, au Palais de Tokyo, accompagné de Dimitri from Paris, Yasmine et Dactylo. Tout un programme, ce sera donc demain soir, donc au Yo-Yo au Palais de Tokyo. Et puis ce soir, en mix sur Radio FG à partir de 23h pour une spéciale dans le Club FG, une spéciale de Marc Cerrone pour Radio FG.
Absolument.
Un vrai plaisir de t'accueillir en tous les cas ce soir.
Merci à toi et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Mais alors par contre, amène une bouteille et des verres quand même.
Avec modération.
Il fait un peu sec.
Février 2022. Antoine Baduel reçoit Oden et Fadzo.
Et je vous le disais à mes invités ce soir, eh bien c'est le trio français Oden et Fadzo. Derrière ce pseudo se cachent trois artistes français qui ont forcément à un moment rencontré vos oreilles avec ça. Et ça, j'aurais dû dire avec elle, c'est Lorraine. Une électro assez chic qui ne vise pas les radios, ni même les clubs, mais bien l'espace, parce qu'Oden et Fadzo, eh bien c'est ça aussi, c'est une bande d'astronautes. On va en parler tout de suite parce que ce sont mes invités de la Power. Salut les garçons, comment allez-vous?
Salut Antoine.
Hello.
Ben, ça me fait très plaisir de vous accueillir parce que la dernière fois que vous étiez venu, on était en plein lancement du titre, en pleine release. Vous n'étiez joué que sur FG, je crois que c'est toujours le cas. Mais enfin, là, pour le coup, il faut dire une chose, c'est qu'il y a une autre radio qui vous joue, c'est BBC Radio 1, gros carton en Angleterre donc, avec du coup pas mal de dates. Qui sont arrivés, je crois. Vous avez fait quel club alors en Angleterre? Dites-moi tout.
On a pas mal tourné. Donc en décembre, on a joué à la Fabrique.
Ah, c'est une institution.
C'est ça.
C'est-à-dire que pour celles et ceux qui connaissent pas Fabrique, à Londres, c'est l'équivalent du Rex Club.
Ouais, exactement.
C'est le temple de la techno et des musiques électroniques. C'est vraiment le club pointard, quoi. C'est donc ça. Pour l'image, c'est super.
Non, et puis le club est incroyable et la salle où on a joué, c'est la deuxième, donc qui est un peu plus petite. Mais l'ambiance était plus intimiste et c'était vraiment, vraiment très, très cool.
Et on devait jouer au Rex Club d'ailleurs, mais il y a une inconnue qui s'est invitée dans l'équation, c'était le Covid. On a chopé le Covid.
Ah, c'est d'accord, c'est vous qui avez eu un petit retard à l'allumage. D'accord, on va se dépêcher quand même de préciser que ce délire spatial dont je parlais tout à l'heure, parce que sinon personne ne va comprendre, c'est qu'en fait Oden et Fadzo, c'est un son, mais c'est aussi quelques petites références, je vais y arriver, à l'espace, sauf que le clip de Lorraine ne nous emmène pas à des années-lumière, il nous dit que la Terre est plate. Alors c'est quoi ce délire? Tous les regards.
Je pense qu'on a voulu marquer les esprits en servant un petit peu de quelque chose qui est dans l'opinion commune aujourd'hui, donc qui parle à tout le monde, les platistes.
Et donc les platistes, c'est les complotistes qui pensent que la Terre est plate.
Exactement. Donc ça peut parler à tout le monde. On a tous eu des fake news un peu dans notre entourage, dans notre vie commune et tout. Donc je pense qu'on a voulu, et aussi avec notre univers qui est justement l'espace et la conquête spatiale, essayer de mixer un peu, tu vois, sans être trop complexe.
C'était un mix entre les deux, et évidemment, le tout parfumé d'humour, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi
Parce qu'il fallait un peu émouvant à la fin aussi, tu vois, on essaie de mener le truc.
Notre projet a toujours eu un côté avec beaucoup d'humour, et via notre label, on a toujours raconté des histoires humoristiques et tout. Du coup, on voulait que ça se ressente dans le clip. Quand même.
Alors, c'était dans la continuité.
Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que ce son, Lorraine, il est très charnel, il est même très house. Est-ce que c'est ça la marque de fabrique Oden et Fazo, ou alors il faut s'attendre à d'autres petites surprises quand on vous découvre en mix?
Très bonne question.
Merci de l'avoir posé.
C'est une bonne porte d'ouverture en tout cas.
C'est une bonne porte d'ouverture. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il est témoin de l'évolution du projet. Au début, on faisait de la minimale, puis on s'est intéressé de plus en plus à tout ce qui est funk, les vrais instruments, dont la vraie ligne de basse qu'on peut retrouver sur Lorraine en fait. Ouais. Et on s'est mis avec ça à bosser aussi avec des chanteurs. Donc on peut s'attendre à tomber là-dessus, mais aussi sur des sons plus anciens qu'on s'amuse à revisiter pour surprendre. En fait,
ce qui est marrant, c'est que Lorraine, du coup, c'était de base un sample du groupe Men I Trust, et ça nous a amené, nous, maintenant, à vouloir en fait jouer des vrais instruments, avoir des vraies chanteuses, et pouvoir faire des chanteurs, des chanteuses, et pouvoir faire ça nous-mêmes. Quoi.
Alors, du coup, finalement, si le qualificatif de house vous va bien et que vous l'assumez, finalement, on peut dire qu'il y a de multiples influences qui s'inscrivent quelque part dans des références qui vont être à la fois sur des voix, donc plutôt de la funk et plutôt de la house, mais peut-être aussi sur des petites surprises au niveau de la prod. Ça ne sera pas que de la house sur vos prochains projets.
Bien sûr. On est toujours mené par nos anciennes influences, quoi. C'est évident.
C'est-à-dire la minimale, et donc peut-être un peu de. Parce que moi, j'ai entendu des sets de vous au tout début.
T'es allé creuser un peu.
On a toujours fait tout. On fait du breakbeat. Maintenant, on joue de la jungle à la fin de notre set.
Il y a même aussi de la mélodique, un peu, quand même, à certains égards.
Et c'est pas gênant que le prisme soit vu à l'envers quand tu découvres le projet. Ouais. Au contraire, parce que nous, c'est comme ça qu'on aimerait bien que les gens le voient. Et tu peux rentrer dans notre style par quelque chose de très commun, et en creusant,
Découvrir d'autres univers et d'autres influences. On va s'écouter Lorraine tout de suite. C'est donc Oden et Fazo, mes invités ce soir sur FG, et on est très fiers de les accueillir, parce que quand ce sont des artistes comme ça qui démarrent, qui sont ce qu'on appelle nous des bébés FG, ça nous fait super plaisir de voir qu'ils percent à ce point en Angleterre. La Power FG en direct ce soir, comme vous pouvez le voir, la avec Oden et Fazo, donc mes invités. Les amis, on était aussi en train de parler tout à l'heure de votre EP qui était sorti l'an dernier, de Shapeshifter. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe quand vous êtes en studio tous les trois, parce que c'est pas évident de se répartir le travail, de comme ça. Comment ça se passe? Vous êtes d'abord toujours ensemble quand vous produisez? C'est un peu chacun dans son coin, comment ça se ventile?
En fait, ça a beaucoup évolué, parce que quand on pense à la genèse du projet, on voulait absolument avoir tous sa patte tout le temps sur le projet. Ouais. Et en évoluant, on a appris à se connaître, à se faire confiance, à s'aimer. Et maintenant, c'est plus. Parfois, on va commencer tous ensemble, on va ressentir le besoin de faire de la musique tous ensemble. Parfois, c'est quelqu'un qui va commencer un projet, qui va l'envoyer aux autres, faire une proposition, et les autres savent ce qu'ils veulent ajouter. En fait, on a plus une démarche qui va dans le sens de la chanson maintenant.
C'est vrai qu'il y a une restructuration même de la manière dont on travaille récemment. La division des tâches est beaucoup plus claire. Et c'est pour ça qu'on arrive à beaucoup mieux avancer.
Alors justement, comment ça va se passer pour les prochains projets? D'abord, à quoi faut-il s'attendre? Parce que quand on a un succès d'estime comme Lorraine, il faut garder, j'allais dire, le cap, c'est-à-dire forcément rester un peu dans la trame pour ne pas étonner ou surprendre le public. Et en même temps, vous êtes quand même des touches à tout. Alors, il faut s'attendre à quoi?
C'est un peu justement notre problématique, c'est qu'on a toujours fait toutes sortes de sons. Donc là, il y a Lorraine qui marche beaucoup en ce moment. Donc on a aussi envie de refaire des choses un peu plus comme Lorraine, etc. Mais toujours en gardant notre patte. Du coup, là, on est en train de travailler en studio en ce moment pour vraiment définir qu'est-ce que va être Oden et Fazo ces prochaines années. On peut dire qu'on est aussi en train de travailler sur un album.
Voilà, ça a été dit.
Ça a été dit.
Yes.
Et maintenant, on est fini.
Non, mais pareil, voilà, disons que l'album, c'est une problématique qui est intéressante, parce que bien sûr, on est habitué à faire de la house et des tracks avec des grands guillemets de teuf, mais on a envie de se mettre plus à nu dans l'album, qui est des chansons.
Vos influences, d'autres voix, d'autres productions, d'autres univers. Un album, ça sert à ça.
Exactement.
Surtout que c'est quand même couillu de sortir un album aujourd'hui en 2022,
exactement,
à un moment où tout le monde dit que le format album, justement, n'est plus. Je dirais pas viable, mais en tous les cas, c'est très audacieux.
Bon, c'est ça. Et en musique électronique, en plus.
Et surtout en musique électronique. Ouais. Vous allez lui donner une vocation, une dimension particulière à cet album. Parce qu'un premier album, c'est quand même.
Ouais, bien sûr.
Bah, le, même le concept, hein, qui sera autour, qui est voilà. toujours lié à notre label Sacré Record, comme on en a parlé la dernière fois avec toi.
C'est ça.
Et en fait, on va développer tout ça. En fait, on en ressent même le besoin. Je pense que c'est naturel, ça va se faire bien, quoi.
Tout ça, ça va aussi se dérouler en parallèle, évidemment, du spectacle vivant. Évidemment, ouais. La réputation d'Oden et Fatso, elle est très forte au niveau du live et avec un très, très bon bouche à oreille. En soirée, justement, qu'est-ce qui vous rend singulier, selon vous, et différent au point d'avoir réussi à conquérir comme ça un public parisien qui est quand même réputé intransigeant, pour pas dire dur?
C'est l'alcool.
On est cinglés.
Voilà. On n'en boit pas et c'est pour ça que ça marche.
Exactement.
Non, c'est l'énergie.
Je pense qu'on a une énergie, une sincérité aussi. La sincérité positive, si j'ose dire.
Vraiment, ouais.
Qu'on essaye de retransmettre à tout le monde.
On est tous les trois influencés par des. Non, mais on est tous les trois influencés par des groupes ou en tout cas des musiciens qui ont cette énergie sur scène, que ce soit dans le jazz, le métal, le rock, le rap, tout. On a toujours été très influencé par ça. Je pense que ça se ressent sur scène dans notre
énergie. Je pense qu'on peut aussi dire un truc, c'est l'utilisation de machines aussi. Parce que ça, c'est quand même, quelque chose qui est votre marque de fabrique, c'est-à-dire c'est du live, c'est pas des platines. Et là, ça vous permet quand même de créer quelque chose d'unique. Est-ce que c'est quelque chose que vous réinventez chaque soir quand vous êtes en live?
On joue jamais le même live.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est, ouais. On a à peu près entre 5 et 6 heures de live en tout. Et la plupart du temps, on joue entre 1h30 et 2h. On improvise selon. On joue quelques morceaux au début, on voit comment ça réagit et on improvise le live.
Waouh!
Il y a souvent un fil conducteur commun, mais t'entendras jamais le même live entre deux soirées.
C'est ça, c'est selon l'atmosphère, l'ambiance de la salle.
C'est ça.
Le public n'est jamais en attente de la même chose selon les villes, ils ont leurs habitudes, etc. On essaye de capter cet instant et de jouer quelque part avec le public, que ce soit un échange à chaque fois.
Et les prochaines dates en France, on les connaît?
En mars, on va jouer pour nos amis de Pisica. Et en juin, on retourne au Rex du coup.
Ah,
la date qui a été annulée et décalée.
T'as pas intérêt à choper invité. Parce que sinon, c'est 6 mois de delay au Rex.
Vous êtes invité.
Mais il y a de grands plaisirs. Si vous aimez, alors vous allez aimer Oden et Fatso, ce trio qui diffuse une house chic et sensuelle et qui pousse à l'échange, aux rencontres et leur dernier single qu'on adore, c'est Lorraine. Merci les garçons, toujours un plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'on va tout de suite écouter un remix Oden et Fatso. C'est Theos and Elrod. Ça s'appelle NMW 1087 Mastered.
Avril 2013. Antoine Baduel reçoit Disclosure.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le duo anglais Disclosure. À eux deux, Howard et Guy, les deux frères qui forment le duo Disclosure, n'ont pas l'âge de la house music. Et pourtant, ils l'aiment cette musique. Ils la cajolent. C'est devenu même en quelques mois un véritable phénomène. Leur production brasse des sonorités house, mais aussi de la pop, du garage, à l'image du titre Latch que vous avez découvert sur FG. Ils sont de passage à Paris et ils ne pouvaient pas nous échapper. Les Disclosure, ce soir, sont mes invités de la Piawer. Bonsoir à tous les deux. Howard, Guy, good evening. How you doing?
Yeah, very good, man. How are you?
I'm very good, thank you. Nice to see you. Nice to meet you. Aujourd'hui, Howard, Guy, on vous encense. On loue vos productions très deep electro et house. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous êtes devenu à la fois producteur et DJ? Qu'est-ce qui vous a amené à ces sons-là?
Well, we started producing before we could DJ.
Bon, en fait, on produisait déjà avant d'être DJ. On a sorti quelques titres avant de se mettre au platine. Yeah, et puis, on est venu à la scène électro il y a, je sais pas, 4 ans à peu près. Avant ça, on jouait surtout des trucs instru avec batterie, guitare, piano. Grâce à nos parents qui nous ont donné ce virus. Et moi, j'ai commencé à sortir en club, à écouter du dubstep, de la house, des trucs comme ça. J'en ai parlé à Howard en rentrant à la maison et on s'est dit, tiens, allez, on va essayer.
Alors, toutes vos productions font la part belle aux voix, hein, ce qui vous donne vraiment, d'ailleurs, à la fois une certaine personnalité dans vos prods et aussi tout le charme de vos titres. Est-ce que c'est réellement important le vocal pour vous? Est-ce que c'est justement, selon vous, ce qui donne toute l'âme de vos productions?
I think we like to incorporate.
En fait, nous, on aime beaucoup mettre des voix dans nos productions. Pas toutes, hein, mais dans nos titres club. On aime bien faire ça parce que c'est différent de produire juste des titres club, de bosser sur l'écriture. Faut dire qu'on a aussi grandi en écoutant différents groupes, des morceaux avec de l'écriture. Donc, c'est super important pour nous d'intégrer ça. Parce qu'on peut le faire et on aime ça surtout.
Alors, j'ai même lu que vous sampliez des bandes-son de films porno. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez une relation sexuelle avec cette musique?
Just in one song.
Ouais, on l'a fait, mais juste pour un seul titre. Un titre qui s'appelait What's in Your Head. D'ailleurs, pour info, c'est Guy qui a eu l'idée. Il a trouvé ça, ça collait bien à l'ambiance du morceau. Et les gens apprécient vraiment cette partie de la chanson. Et franchement, je comprends pourquoi.
Alors avec vous, on est très loin de l'ambiance big room électro qu'on entend dans tous les clubs d'Europe. Et pourtant, votre dernier single, White Noise, s'est classé numéro 2 des charts en Angleterre. Comment est-ce que vous expliquez que le public adhère à ce point, à ces sons-là?
We don't know really, because we were listening to the UK chart.
Bon, on sait pas trop en fait, parce qu'on écoute pas vraiment ce qu'il y a dans les charts anglais. On aime pas trop, donc c'est presque inquiétant d'y figurer finalement. C'est vraiment inattendu, c'est dingue que ça ait touché autant de monde et un public tellement varié. Comme tu sais, on a fait ce morceau pour les clubs avant tout. Aluna George l'a fait aussi, c'est des nouveaux talents à suivre, très tendance en Angleterre. On s'attendait à ce que les blogs aiment, les clubs aiment, mais vraiment pas que ça décolle comme ça l'a fait.
Et ce soir, mes invités, ce sont les deux frères Disclosure. Ils cartonnent avec un single qu'on vous joue beaucoup sur FG, Latch. Alors les garçons, de Berlin à Miami, en passant par Paris, on parle beaucoup de sonorités très deep, parfois pop, comme les vôtres d'ailleurs, qui cartonnent. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous êtes de plus en plus demandé à l'étranger?
Actually, we've been booked abroad, especially in Europe, from quite an early.
Ouais, c'est vrai, on a été booké très tôt en Europe, particulièrement en France et en Allemagne aussi. Ça a progressé un peu, mais là, on a toujours beaucoup de soutien.
Et vous pensez quoi des productions Big Room dont je parlais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous inspire des producteurs comme Avicii, Deadmau5 ou Afrojack? On
n'est pas dans le même trip. Ils font pas partie de nos influences. On s'inspire beaucoup plus des sources de la house, de la techno ou du garage anglais, du two-step. On pense que ces gens-là étaient les plus avant-gardistes, qu'ils avaient les meilleures idées à l'époque et encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde dans le passé, ils ont fait la meilleure époque de la house. Je pense que Deadmau5, par exemple, qui est quelqu'un qu'on respecte beaucoup en termes de production, bah voilà, ses prods sont vraiment excellentes. Mais sa musique en elle-même n'est pas dans le style qu'on écoute.
Alors, je sais que vous bossez sur un album qui devrait sortir prochainement. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire?
Yeah, it's pretty much done actually. We're just finishing it up now.
Ouais, il est quasiment prêt. On le finit en ce moment. On est vraiment très excités. C'est un mélange entre des morceaux très vocaux comme Latch et White Noise que tu connais, et des morceaux instru club avec des samples comme What's in Your Head dont je te parlais tout à l'heure. Les deux premiers singles sont Latch et White Noise, et l'album sortira a priori début juin. Il y a un nouveau single de prévu aussi bientôt.
Merci en tous les cas. Thank you guys. Le duo Disclosure, vous l'avez découvert sur FG grâce au morceau Latch. Il vient de sortir d'ailleurs un nouveau single qui s'appelle White Noise, qu'on va vous jouer très très prochainement dans le starter FG. En attendant, toutes les infos, vous les avez sur disclosureofficial.com. Thank you.
Thank you, man.
Thanks, man.
Janvier 2021, Antoine Baduel reçoit Offenbach.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le duo français Offenbach. À chaque fois, ils font mouche, à chaque fois, leur titre devient un tube. Le duo Offenbach n'est pas très fair-play, car il connaît parfaitement la recette du succès de Be Mine, à Head and Shoulders, Knees and Toes. Les voici de retour avec un tout nouveau single qui s'appelle Wasted Love. Et toujours ce don à faire cette espèce de chorégraphie sur leur nouveau single dès qu'ils arrivent, avec un accompagnement de leur tête et de leurs bras. C'est mes mains ont la parole.
C'est bon ça.
C'est incroyable. Ils sont mes invités ce soir. Dorian, César, bonne année à vous et bienvenue sur FG.
Bonne année. Bonne année Antoine.
Alors quel bonheur de vous retrouver avec ce nouveau single, un titre qui vient après une année folle pour vous, Head, Shoulders, Knees and Toes, qui a été un véritable triomphe, je pense qu'on peut le dire. Ça a été un des hits de cet été 2020. Est-ce que vous êtes mis la pression pour Wasted Love? Ou alors au contraire le confinement vous a inspiré musicalement?
Alors je pense que le confinement nous a beaucoup aidé à faire certains choix sur la musique, peut-être aussi se laisser aller, puisqu'on était très enfermés dans quelque chose de rock, électro, vraiment là-dedans. Et en fait, pendant le confinement, on s'est dit, on est quand même, on est DJ producteur. Et la force qu'on a, c'est qu'on peut faire tous les styles qu'on veut. Et on ne nous le reprochera jamais. Par exemple, DJ Snake, il peut très bien faire de la tech house et le lendemain faire du reggaeton. On ne lui en voudra pas, c'est son métier, les producteurs. Et je pense que le confinement nous a permis de faire ça et d'explorer de nouveaux horizons.
Ça a libéré quelque part un peu vos tabous, tout au moins ce qu'on a un peu tendance à faire, c'est-à-dire on joue beaucoup en soirée, donc finalement on s'enferme un petit peu dans un style qu'on a joué en soirée, puis finalement on veut faire le follow-up, du follow-up, du follow-up, et on reste un peu enfermé.
Exactement.
C'est ça.
Hein.
Alors disons-le clairement pour celles et ceux qui aiment Offenbach ou pour Catchy ou pour Party, ce nouveau titre, il est un peu beaucoup plus sombre quand même, disons-le. Oui,
il l'est. Ouais.
Et oui, il y a tonton Yannick qui ne voulait pas le passer tellement c'est sombre.
C'est mélancolique, c'est pas si sombre que ça, c'est mélancolique.
Voilà, mais heureusement, on a quand même cet accompagnement maintenant. Voilà, un accompagnement vocal, il faut le dire maintenant. Alors pourquoi ce choix de sonorité quand on vous connaissait, vous toujours si solaire, joyeux, dansant, est-ce que vous étiez un petit peu plus mélancolique en le faisant, justement, le morceau?
Je pense qu'on était un peu plus mélancolique aussi par la période. Et on avait un truc aussi, on a toujours écouté beaucoup de pop et on voulait absolument une chanson à jouer.
jouer justement quand ça reprendra, qui soit un peu plus émotive et qui puisse justement procurer cette sorte de mélancolie et en même temps de nostalgie au public.
Alors à chacune de vos productions, un rituel, c'est-à-dire un gimmick que les gens peuvent retenir, chanter, danser, même pour le Head Shoulders Knees and Toes, j'allais dire même surtout pour ce titre. Là, pour ce nouveau single, on est quand même sur autre chose, même si on a quand même ce petit côté, ce petit gimmick, j'ai quand même l'impression que vous cherchiez un morceau peut-être un peu moins adolescent, un peu moins quelque part pop aussi, et quelque part quelque chose de plus mature, voilà, de plus posé quand même.
Bah c'est un peu notre but, c'est de grandir aussi musicalement et de faire des grosses productions, de passer un peu à quelque chose de plus international aussi, puisqu'avant on était très peut-être parisien, français centré, très French touch centré, et en fait on aimerait faire de la musique pour le monde entier, c'est ce qu'on aime voyager, et je pense que avec des chansons comme Wasted Love, on peut s'adresser à un public encore plus large et partager avec beaucoup plus de gens, et c'est notre essence, ça, c'est, on vit pour ça en fait.
Novembre 2012, Antoine Baduel reçoit Benny Benassi.
Et nous sommes avec Benny Benassi. Vous savez, l'Italie, c'est pas que les images qu'on nous montre à la télé, c'est surtout un pays qui carrément cartonne avec un dieu, Benny Benassi. Satisfaction de 2002 au tube de cinéma et Control avec Gary Go. Benny a souvent gratifié les clubs de bombes. Ce soir, il sera en mix exclusif sur FG à partir de 23h. Et on le retrouve tout de suite. Benny, my friend, how you doing?
Hey, how are you, Antoine?
I'm very good, Benny. Very good. Ça va bien. Where are you at the moment? Tu es où là?
I'm in the studio in my city near Bologna, a little town called Reggio Emilia in Italy.
Okay.
We are in studio. We work in a new remix for Daido.
Alors il est dans son studio. And, il travaille sur des nouveaux remixes là en ce moment.
Yeah,
we. C'est pas grave, Benny, tu parles. You can talk in English.
C'est grave.
Alors, Benny. Yeah.